Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Et jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chères femmes, eh bien, chers amis, je continue ce cycle de conférences sur le catholicisme libéral, en épluchant un petit peu l'œuvre de l'abbé Barbier, l'histoire du catholicisme libéral. Donc, nous en sommes maintenant au tome 3. Je vais essayer de vous donner un peu un résumé de ce qu'enseigne l'abbé Barbier. Je vous ai déjà prévenu qu'il y a dans les livres de l'abbé Barbier que j'utilise, j'en utilise plusieurs, pour ce coup il y a beaucoup de recoupements, beaucoup de textes qu'on retrouve en plusieurs endroits, donc encore une fois je m'excuse s'il y a des redites. Mais dans ces textes, sur ce sujet-là, je crois qu'il est important de répéter les choses pour que ça rentre. Il faut que ça rentre dans les esprits. Beaucoup de nos fidèles ne comprennent pas les dangers, justement, de ce catholicisme libéral et sans s'en rendre compte, sont devenus des catholiques libéraux. Monseigneur Lefebvre me disait un peu en riant que on est tous des libéraux parce qu'on est tous des pécheurs. Et à partir du moment où on est pécheur, on est un libéral. C'est un peu vrai. Mais il faut quand même faire un petit peu attention et bien travailler sur notre doctrine pour être sûr de ne pas se laisser contaminer par ces idées modernes, ces idées nouvelles. Qu'on le veuille ou non, nous avons été contaminés par ces idées. Alors voyons un petit peu, je vous cite certains textes encore de l'abbé Barbier. Donc l'abbé Barbier va reparler dans ce tome 3 beaucoup de l'américanisme, donc je vais sauter ce que j'ai déjà dit, tout en essayant de synthétiser ce que dit l'abbé Barbier. Voilà ce qu'il dit. Ce n'est donc pas de l'encyclique Rerum Novarum, 1891, donc là c'est toujours Léon XIII, que doivent se réclamer ceux qui veulent, à coups de loi ou d'institutions ultra-démocratiques, transformer les salariés en associés, les prolétaires en copropriétaires. Non, le patron n'est pas obligé de partager avec ses ouvriers la direction, la propriété ou les bénéfices de son industrie. Un maximum d'organisation sociale correspondra à un minimum d'intervention directe de l'État et un minimum d'organisation sociale à un minimum d'organisation sociale correspondra à un maximum d'intervention de l'État. Donc il faut essayer d'avoir dans ce domaine-là, encore une fois, les idées claires pour ne pas tomber dans le socialisme. Mais force sera bien pour faire observer la justice qui doit absolument être sauvegardée de se tourner vers les pouvoirs publics. C'était un grand penseur qui s'appelait De Bonald qui l'avait dit, on ne persuade pas aux hommes d'être justes, on les y contraint. Donc il y a une partie coercitive, si vous voulez, dans l'organisation d'un État qui ne peut pas être évitée. Qu'on y prenne garde, la corporation a beau être libre et volontaire dans sa formation, on se rira de ses règlements et le but qu'elle poursuit ne sera jamais atteint si on ne l'arme pas d'un pouvoir efficace, non seulement à l'égard de ses membres, mais aussi à l'égard de toute la profession. Donc la corporation fait les règlements nécessaires et l'État les homologue. Donc elle est bien obligée dans toute association politique, dans toute association économique, d'avoir des règles et d'être un peu tenue par ces règles. Sinon, l'absence de règles, si vous voulez, est un leurre. Donc Léon XIII a voulu symboliser en quelque sorte la réconciliation entre l'Église et le monde moderne, la démocratie et la papauté. Je ne veux pas juger ses intentions, qui sont extrêmement bonnes, c'est certain, mais encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, même si sa doctrine était excellente, l'esprit démocrate qui était le sien lui a fait faire des grosses bêtises. J'en ai déjà parlé. Bon. Au début de la démocratie chrétienne, donc on admirait en ses membres une sincérité de zèle et chez plusieurs une ardeur apostolique, dit l'abbé Barillet, qui serait injuste de méconnaître, mais chez plusieurs aussi perçait déjà un intempérant besoin d'action, malheureusement joint à une absence regrettable de doctrine théologique et non moins de haute et solide qualité morale. Rappelez-vous le texte de Saint Pie sur ce sujet. Je vous le cite. Notre charge apostolique, disait le pape Saint Pie X, on est en 1910, ce sont des extraits ici de son encyclique sur le sillon, notre charge apostolique. Voilà ce qu'il disait, notre charge apostolique nous fait un devoir de veiller à la pureté de la foi, à l'intégrité de la discipline catholique, de préserver les fidèles des dangers de l'erreur et du mal, surtout quand l'erreur et le mal leur sont présentés dans un langage entraînant, qui voilant le vague des idées et l'équivoque des expressions, sous l'ardeur du sentiment et la sonorité des mots, peut enflammer les cœurs pour des causes séduisantes mais funestes. Telles ont été naguère les doctrines des prétendus philosophes du XVIIIe siècle, celles de la révolution du libéralisme tant de fois condamnées. Telles sont encore aujourd'hui les théories du sillon, qui sous leur apparence brillantes et généreuses, manquent trop souvent de clarté, de logique, de vérité, et sous ce rapport ne relèvent pas du génie catholique et français. Vous voyez, on voit très bien que Saint Pie X nous met en garde pour... Il met en garde surtout ceux qui ont la bonne volonté et qui n'ont pas la formation. Et ensuite, il précise, les fondateurs du Sillon, en effet, étaient jeunes, enthousiastes, pleins de confiance en eux-mêmes, mais n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques, de saines philosophies, de fortes théologies pour affronter sans péril les difficiles problèmes sociaux vers lesquels ils étaient entraînés par leur activité et leur cœur, et pour se prémunir sur le terrain de la doctrine et de l'obéissance contre les infiltrations libérales et protestantes. Rappelez-vous la formule, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc Saint Pie montre bien que les bonnes intentions ne suffisent pas, il faut aussi la doctrine. De tous côtés, c'est donc, là c'est un texte encore de l'abbé Barbier, on revient à l'abbé Barbier, de tous côtés, c'est donc une germination d'œuvres sociales qui, bien dirigée et conduite selon les enseignements pontificaux, aurait merveilleusement secondé les grands desseins de Léon XIII. Mais, voilà une remarque importante, l'engouement démocratique, l'absence d'une doctrine sûre, l'ambition de découvrir des méthodes et des voies nouvelles sèment les écueils sur la route. Donc beaucoup de jeunes catholiques se sont fait rouler dans la farine à la fin du 19e siècle parce que justement ils avaient la bonne volonté, ils avaient l'énergie, mais il leur manquait cette science historique, cette saine philosophie et cette forte théologie dont parle Saint Pie X. Donc il leur manquait les bases doctrinales. C'est un peu comme quelqu'un qui veut construire une belle maison et qui n'a pas de fondation. Alors, Saint Pie X donc, va reconnaître qu'il y avait chez les fondateurs du Sillon de la bonne volonté. Mais, encore une fois, la bonne volonté ne suffit pas. Et donc, il faut voir, je crois, pour bien analyser les choses, voir où sont les dangers. Saint Pie X le dit bien, quand il analyse les causes du modernisme, et c'est pareil pour le sionisme, il analyse toujours les mêmes raisons. Il parle toujours des mêmes raisons. L'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Orgueil, ignorance, amour des nouveautés. Mais ce que disait Saint Pie X sur les fondateurs du Sillon est également valable pour tous les politiciens en herbe d'aujourd'hui. Ils sont pleins de bonne volonté, mais il leur manque l'essentiel. Et c'est de ça dont on va parler maintenant l'abbé Barbier. Danger des démocrates chrétiens, vous faites trop de politique, dit-il, et vous vous éloignez trop des classes élevées. La démocratie chrétienne devrait se défendre de revêtir un caractère confessionnel, c'est-à-dire éviter de s'affirmer catholique et de professer que la religion seule peut rendre ses forces efficaces. Voilà un petit peu la tentation, si vous voulez. La tentation, c'est de cacher en quelque sorte son catholicisme pour pouvoir pénétrer dans le milieu ouvrier. La question est d'ailleurs d'importance capitale, car résolue négativement, elle n'aurait encore rien moins pour résultat, non seulement que de frapper de stérilité l'action catholique, mais encore de découronner l'Église, son aspiratrice, d'un titre également essentiel à sa mission et à sa gloire, et de conduire finalement, après la sécularisation de toutes les institutions publiques par le pouvoir civil, à la laïcisation de l'action et des doctrines sociales de l'Église, réduite dès lors à des principes d'ordre simplement naturels et rationnels, accessibles à tous et applicables par tous, au dehors de ces doctrines et de leurs influences. Il s'agissait donc d'obliger les catholiques à ne pas adopter d'autre drapeau que celui des non-croyants. Donc, les ennemis de l'Église veulent bien, si vous voulez, que les catholiques viennent travailler chez eux, à condition qu'ils mettent leur drapeau dans la poche. À condition que leur drapeau soit un drapeau acceptable par tout le monde. Donc, le danger, si vous voulez, de ces catholiques de bonne volonté qui veulent se lancer dans la politique, et ceci était vrai sous Saint-Pédis, c'est aussi vrai encore plus aujourd'hui, et de vouloir faire quelque chose sans la protection de l'Église. C'est une prétention, dit Saint-Pédis, d'échapper à la direction de l'autorité ecclésiastique en alléguant qu'ils évoluent sur un terrain qui n'est pas celui de l'Église. Donc, qui ne poursuivent que les intérêts de l'ordre temporel et non de l'ordre spirituel. Ils se disent, nous sommes simplement des catholiques voués à la cause des classes laborieuses, aux œuvres démocratiques, et puisant dans les pratiques de sa foi, de notre foi catholique, l'énergie de son dévouement. Que ni plus ni moins que les artisans, les laboureurs, les économistes et les politiciens catholiques, le sioniste, ou les gens qui suivent Marc Sangné dans le sillon, demeurent soumis aux règles de la morale commune, à tous sans relever ni plus ni moins que d'une façon spéciale de l'autorité ecclésiastique. La réponse de Saint-Pédis doit être méditée. Voilà ce que répond Saint-Pédis à cette objection des gens qui veulent en quelque sorte se lancer, des catholiques qui veulent se lancer dans la politique, sans contrôle, être contrôlés par la doctrine de l'Église. À qui fera-t-on croire, dit Saint-Pédis, que les sionistes catholiques, que les prêtres et les séminaristes enrôlés dans leur rang n'ont en vue dans leur activité sociale que les intérêts temporels des classes ouvrières. La vérité, c'est que les chefs libéraux du catholicisme libéral se proclament des idéalistes irréductibles parce qu'ils prétendent relever les classes laborieuses en relevant d'abord la conscience humaine qu'ils ont une doctrine sociale et des principes philosophiques et religieux pour construire la société sur un plan nouveau, qu'ils ont une conception spéciale de la dignité humaine, de la liberté, de la justice, de la fraternité, et que pour justifier leurs rêves sociaux, ils en appellent à un évangile interprété à leur manière, et ce qui est plus grave encore, à un Christ défiguré et diminué. Nous avons donc le droit de dire que le but de ce catholicisme libéral, son caractère, son action ressortissent au domaine moral qui est le domaine propre de l'Église et qu'en conséquence, ces catholiques libéraux se font illusion lorsqu'ils croient évoluer sur un terrain aux confins duquel expirent les droits du pouvoir doctrinal et directif de l'autorité ecclésiastique. Donc ces libéraux se sont fait rouler littéralement. Pourquoi ? Parce que emporté par un amour malentendu des faibles, il a glissé dans l'erreur. Alors, encore une fois, il faut savoir utiliser les textes de Léon XIII. Je vous l'ai déjà dit, même si Léon XIII, en matière politique, a fait des erreurs monumentales à cause de son esprit démocratique, dans la doctrine, encore une fois, de Léon XIII, il n'y a rien à redire. Le pape Saint-Pédis lui-même va dire la même chose. Voilà ce qu'il dit à ce propos.
Les principes, dit Saint Pie X, de la doctrine catholique sont fixés. Et l'histoire de la civilisation chrétienne est là pour attester la bienfaisante fécondité. Pour attester la bienfaisante fécondité. Notre prédécesseur, dit Saint Pie X, et là il parle de Léon XIII. Notre prédécesseur, Léon XIII, d'heureuse mémoire, les a rappelés dans des pages magistrales que les catholiques occupés de questions sociales doivent étudier et toujours garder sous les yeux. Léon XIII enseignait notamment que la démocratie chrétienne doit maintenir la diversité des classes, qui est assurément le propre de la cité bien construite, et vouloir pour la société humaine la forme et le caractère que Dieu, son auteur, lui a imprimé. Léon XIII a flétri une certaine démocratie qui va jusqu'à ce degré de perversité que d'attribuer dans la société la souveraineté au peuple et à poursuivre la suppression et le nivellement des classes. Donc Léon XIII, dit Saint Pie X, imposait ainsi aux catholiques un programme d'action, le seul programme capable de replacer et de maintenir la société sur des bases chrétiennes séculaires. Donc, mais malheureusement, les catholiques libéraux ont adopté un programme, un enseignement différent de ceux que Léon XIII, ce qui serait déjà singulièrement audacieux de la part de laïcs se posant ainsi concurremment avec le souverain pontife en directeur de l'activité sociale dans l'Église. Mais les catholiques libéraux, dit Saint Pie X, ont ouvertement rejeté le programme tracé par Léon XIII, en ont adopté un diamétralement opposé. Ils repoussent la doctrine rappelée par Léon XIII sur les principes essentiels de la société, place l'autorité dans le peuple, la supprime à peu près, et prennent comme idéal à réaliser le nivellement des classes. Ils vont au rebours de la doctrine catholique vers un idéal condamné. Donc ils cherchent, les catholiques libéraux, puisque c'est le sujet de notre étude, les catholiques libéraux, dit Saint Pie X, ont comme rêve de changer les bases naturelles et traditionnelles de la société, ils promettent une cité future édifiée sur d'autres principes qu'ils osent déclarer plus féconds, plus bienfaisants que les principes sur lesquels repose la cité chrétienne actuelle. Mais on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. Cette société, c'est la civilisation chrétienne. C'est la cité catholique. Et Saint Pie X va bien expliquer qu'il n'y a pas un choix entre plusieurs sociétés, il y a un choix entre une civilisation catholique ou pas de civilisation du tout. Revenons au texte de l'abbé Barbier. Donc après avoir dit que les libéraux voulait obliger les catholiques à ne pas adopter d'autre drapeau que celui des non-croyants, l'abbé Barbier continue. La non-confessionnalité de l'action politique et de l'action sociale est en effet un des principaux champs où le libéralisme s'est donné carrière depuis cette époque. Ni la doctrine économique, ni le programme social de la démocratie chrétienne ne supposent la profession de foi catholique. Le Parti démocratique chrétien ne se propose aucunement pour but d'établir la prépondérance politique de l'Église dans l'État, il réclame seulement la liberté de l'Église, l'Église libre dans l'État libre. Encore n'espère-t-il obtenir cette liberté que par l'action sociale et comme résultat de cette action démocratique. Donc, M. Demain et de la Tour du Pin avaient fait reposer l'œuvre du relèvement social sur le dévouement des classes dirigeantes aux classes ouvrières. C'est même le pivot de leur conception. Les démocrates chrétiens le déplacent complètement, la question ouvrière ne sera résolue que par l'ouvrier, toujours est-il qu'on verra dans la période suivante, M. Demain converti, entre guillemets, abandonné, sinon répudié le patronage, l'exercice du devoir de paternité sociale des classes dirigeantes et des chefs d'industrie, qu'il avait si hautement affirmé, et que condamnant les démocrates sous le nom méprisant de paternalisme, il proclamait nécessaire à leur exemple l'autonomie des cercles ouvriers. On voit très bien l'influence, si vous voulez, du libéralisme dans les milieux politiques chrétiens. Donc l'allusion, dit l'abbé Barbier, ou plutôt la contradiction, n'est-elle pas grande d'espérer voir une restauration chrétienne de la société et celle des droits de l'Église, sortir d'une action démocratique qui d'abord en exclut la préoccupation et surtout n'entend et s'exercer qu'au nom de vérités d'ordre simplement naturel et rationnel. Sans doute, les généreuses visées dont l'œuvre des cercles ouvriers s'était inspirée rencontraient un sérieux obstacle dans la mollesse et l'égoïsme des hautes classes. Et quoique son succès fût loin d'être négligeable, l'effet n'avait qu'imparfaitement répondu aux sympathies et aux offres de concours qu'elle avait d'abord obtenues. Donc on voit encore une fois dans ce texte de l'abbé Barbier le danger, si vous voulez, de vouloir se lancer dans la politique sociale sans être protégé justement par la colonne vertébrale de l'Église catholique. Pourquoi ? Parce que malheureusement, l'influence socialiste a fait un dégât énorme. C'est comme des, si vous voulez, des termites qui étaient déjà pénétrés, qui avaient déjà pénétré dans le bois. L'état politique de la société, la guerre faite à l'Église, rendait d'ailleurs difficile le recrutement des cercles catholiques parmi les classes ouvrières, qui n'échappent pas aux influences gouvernementales. Enfin, dit l'abbé Barbier, la poussée des aspirations populaires sous l'action des agitateurs radicaux et socialistes s'exerçait en un sens très opposé à cette œuvre de pacification sociale. La tâche était ardue, elle exigeait des efforts persévérants et inlassables. Et ceux qu'il avait conçus et entrepris avaient en premier lieu le mérite d'une conception juste, la seule dont l'application offrit le remède nécessaire, le plus conforme aussi à la doctrine sociale de l'Église. Mais on voit très bien dans ce commentaire de l'abbé Barbier que les idées modernistes commençaient déjà à travailler dans tous ces milieux de catholiques sociaux. La bonne volonté était là. Mais il croyait déjà plus, si vous voulez, à la liberté, l'égalité et la fraternité socialiste qu'en la pauvreté, chasteté et obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il y a une note très importante de l'abbé Barbier. Il explique que sous le prétexte de séparer la religion de la politique, le ralliement, donc là, encore une fois, il parle du ralliement de Léon XIII en 1892, le ralliement aboutissait à séparer la politique de la religion. Sous l'influence des conditions politiques, s'était formé en Italie comme en France un parti démocrate chrétien qui, tout en prétendant représenter le catholicisme intégral, n'était lui aussi autre chose que le rajeunissement de l'idée menésienne, donc de l'amener, d'une conciliation à établir entre les principes catholiques et les idées démocratiques issues de la Révolution. Un moyen terme entre l'Église et le socialisme, en un mot, le libéralisme catholique était transporté sur le terrain social. Donc j'insiste sur ce point bien expliqué par l'abbé Barbier. Je m'excuse, ces citations sont un peu longues et compliquées. Mais voir le danger, si vous voulez, c'est de rêver une conciliation possible entre les principes catholiques d'une part et les idées démocratiques issues de la Révolution d'autre part. C'est ça le catholicisme libéral. Le catholicisme libéral, encore une fois, je vous l'ai déjà dit de façon assez claire, que le catholicisme libéral était un mariage entre deux idées incompatibles. D'une part, la religion catholique, tout pour Dieu, et d'autre part, les idées démocratiques issues de la Révolution, c'est-à-dire le pouvoir qui vient d'en bas, qui vient du peuple. Donc comment voulez-vous que deux principes aussi contradictoires, le pouvoir qui vient d'en haut, de Dieu, ça c'est le principe catholique, et d'autre part, le pouvoir qui vient d'en bas, ça c'est le principe révolutionnaire démocratique, comment voulez-vous que ces deux choses puissent travailler ensemble? C'est absolument, absolument impossible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la doctrine du pape Léon XIII était bonne, mais l'influence, si vous voulez, socialiste en matière politique, malheureusement, a bousculé les bonnes idées de Léon XIII. L'abbé Barbier résume, avec une phrase que j'ai déjà citée, je crois, « Tous les novateurs et leurs amis apparaissaient du côté du ralliement, et tous les défenseurs du côté de la bonne doctrine, du côté des réfractaires. » Donc en fait, c'est le danger, si vous voulez, c'est que Avec ses idées libérales catholiques, l'américanisme et la démocratie chrétienne se sont reconnus comme deux frères et donc vont travailler main dans la main pour saper complètement le pilier même de la foi catholique. Encore une fois, on voit très bien là que les plus grands ennemis de l'Église ne sont pas ceux qu'on croit. Les plus grands ennemis de l'Église ne sont pas les ennemis de l'extérieur, mais les ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'intérieur. Et ici, l'abbé Barbier pense surtout à l'américanisme, dont j'ai déjà beaucoup parlé, et à la démocratie chrétienne. Alors, ces influences, si vous voulez, délétères, qui s'opposent, en fait, à la doctrine de Léon XIII, je l'ai encore dit et expliqué plusieurs fois que la doctrine elle-même était bonne. Et donc, trois prêtres vont à ce moment-là intervenir. On est à la fin du XIXe siècle. Ils étaient liés par des affinités intellectuelles et deux d'entre eux vont finir même par l'apostasie. Ils exercèrent en des branches diverses une influence considérable sur l'orientation du jeune clergé et des jeunes laïcs catholiques dans les questions de sciences religieuses durant les années qui s'écoulent de 1880 à 1893. Alors, il y a l'abbé Duchesne en histoire ecclésiastique, l'abbé Loisy en exégèse qui sera condamné par Saint-Félix et l'abbé Hébert en philosophie. Et on voit très bien que ces gens vont commencer à s'écarter de l'enseignement traditionnel de l'Église en matière de philosophie, surtout parce qu'ils sont tentés par une triple émancipation dont j'ai déjà parlé, l'émancipation politique, l'émancipation économique, l'émancipation intellectuelle. Ils ne veulent plus d'une autorité. Donc leur démocratie est une organisation politique et sociale fondée sur une double base, liberté, égalité plus fraternité. Alors, contaminés par la mauvaise philosophie de l'abbé Duchesne, ce qui est Duchesne, de l'abbé Loisy, Loisy, de l'abbé Hébert, Hebert, le libéralisme catholique va pénétrer à l'intérieur du corps social de l'Église. Alors, ceci va entraîner, si vous voulez, une fausse doctrine qui consiste à penser que l'homme peut se sauver par ses propres forces. C'est une espèce d'activisme volontariste. L'activisme, c'est l'action remplace la prière. Le volontarisme, c'est je vais obtenir ce que je veux de Dieu à la force du poignet, sans compter sur ses grâces, mais en comptant beaucoup plus sur moi-même. Alors, vous avez surtout ici l'influence déplorable de Monseigneur Ireland, qui en 1892 va déjà glorifier la démocratie bénie et la république canonisée par le pape Léon XIII. Ils vont sauter, si vous voulez, sur le ralliement de 1892 pour faire croire aux Américains et ensuite à la France que le pape Léon XIII a canonisé la République. Ce n'était pas du tout l'intention du pape Léon XIII, mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est les conséquences. Donc, il demandait, l'abbé Monseigneur Ireland, Monseigneur England, Monseigneur Gibbons, sont des Américains donc de cette époque, des prélats américains de cette époque, des évêques américains de cette époque, vont essayer de provoquer l'union des bonnes volontés dans l'Église catholique en oubliant complètement la doctrine. J'ai déjà cité ce texte, je vous le répète parce que là il tombe exactement à pic pour expliquer ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Je vous cite une citation de cet évêque américaniste, Monseigneur Ireland. Soyez protestants, soyez israélites, soyez même libres penseurs. Si vous avez à cœur les principes de la morale évangélique, l'Église vous admet et vous bénit. Les siècles ne sont plus où les bûchers s'allumaient pour des nuances de dogme. Ariens, pélagiens, s'ils vivaient dans nos jours, auraient leur place en Église nouvelle. On croirait entendre Bergoglio. Par-dessus les cristallisations dogmatiques dont l'aplanissement reste l'office des seuls théologiens, un dogme fécond se dresse sur l'humanité et l'arbitre, c'est le dogme de l'âme de l'Église, de cette société mystérieuse et sainte, à laquelle les incroyants sincères et éclairés, s'ils sont avec Jésus, participent eux-mêmes. L'Église redevient donc vraiment catholique, c'est-à-dire selon tous, elle groupe autour de la figure du Christ toutes les âmes touchées du divin, disait Mgr Ireland. Alors, où est l'erreur là-dedans? Ici, Mgr Ireland parle de l'âme de l'Église. Donc, les américanistes vont prendre quelque chose, un point de doctrine qui est exact, qui est véritable, mais vont le déformer complètement. Qu'est-ce que c'est que l'âme de l'Église? Bon, l'Église est le corps mystique du Christ. Il a un corps et une âme. L'âme de l'Église, c'est la société de tous les catholiques, tous les gens plutôt, qui vivent en état de grâce. Le corps de l'Église, c'est la société de tous ceux qui sont baptisés. Est-ce que tous les membres du corps de l'Église sont sauvés? La réponse est non, c'est pas parce que quelqu'un est baptisé qu'il est sauvé. On peut être baptisé et vivre dans le péché mortel jusqu'au cou, malheureusement. Par contre, il est vrai de dire que ceux qui sont membres de l'âme de l'Église, c'est-à-dire qui vivent en état de grâce, sont sauvés. Toute personne qui meurt en état de grâce est sauvée, c'est deux fois. La question donc qui va se poser est la suivante. Est-ce que quelqu'un peut mourir en état de grâce sans être membre du corps de l'Église, c'est-à-dire sans être baptisé? Les finéistes répondent non. Finéiste, c'est une secte américaine fondée par l'abbé Finet, excommunié par le pape Pie XII en 1953, parce qu'il, justement, niait l'existence d'un baptême de désir. Or, il est de foi, l'Église a toujours enseigné, que quelqu'un qui n'est pas baptisé, donc qui n'a pas un baptême d'eau, mais qui a un baptême de désir, soit implicite, soit explicite, appartient à l'âme de l'Église par ce baptême de désir. C'est un peu la même chose pour ceux qui ont un baptême de sang. Beaucoup des premiers martyrs n'étaient pas baptisés. Ils étaient catéchumènes. Donc ils sont morts sans baptême d'eau. Mais ils sont morts avec un baptême de sang. Ils ont été canonisés par l'Église pour la plupart d'entre eux. De la même façon, quelqu'un qui a un véritable baptême de désir, c'est-à-dire qui, sans faute de sa part, n'a jamais reçu le baptême catholique, mais qui a compris déjà l'importance de la vie divine dans son âme, qui regrette ses péchés et qui vit donc en état de grâce, même si ce sont des cas un peu rarissimes, c'est un peu des cas d'école, ce sont des cas qui sont en soi possibles. C'est ce que l'Église catholique enseigne. Pour cela que dans le catéchisme de Saint Pie X, dans le catéchisme du Concile de Trente, on parle du baptême de désir. Alors évidemment, le baptême de désir ne va pas remplacer un baptême d'eau. C'est pas parce que quelqu'un a un baptême de désir qu'il peut se dire « Donc comme j'ai un baptême de désir, je n'ai pas besoin du baptême d'eau. » Ce ne serait pas un vrai baptême de désir. Bon, un vrai baptême de désir, c'est d'avoir déjà en soi la charité. Dieu peut donner dans des cas spéciaux la charité à quelqu'un qui n'est pas baptisé. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus des sacrements. Est-ce que c'est une situation normale? Non, ce sont des cas exceptionnels, mais des cas qui peuvent exister. Le problème ici avec les américanistes, Mgr Ireland en tête, c'est qu'ils vont généraliser le baptême de désir. Quand on lit les textes de Mgr Ireland, on croirait entendre Bergoglio. C'est exactement l'histoire du salut universel. Tous les hommes ont l'état de grâce parce que la grâce sanctifiante est devenue naturelle à l'homme. Toute personne qui a une nature humaine a l'état de grâce et donc tout le monde est sauvé. Et ça, c'est faux. Il faut pas faire très attention donc à ne pas tomber dans ce panneau qui consiste à naturaliser l'état de grâce. L'état de grâce, c'est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que si l'âme, l'existence de l'âme est naturelle à l'homme, puisque l'âme est une partie de la nature humaine, la grâce sanctifiante qui se greffe sur l'âme est quelque chose d'au-dessus de la nature. C'est pas quelque chose de naturel. C'est un don gratuit de Dieu, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Mais Dieu, dans certains cas, peut permettre que quelqu'un qui n'est pas encore baptisé avec un baptême d'eau ait cette grâce sanctifiante. C'est ce qu'on appelle le baptême de désir. Ces influences américanistes ont fait un dégât énorme dans la société catholique. Parce que le côté moral du christianisme était présenté par Mgr Ireland et ses petits amis américanistes de manière à laisser dans l'ombre le dogme. très avide de réformes sociales, il insinuait que l'Église, en ne les cherchant pas d'une manière directe, avait négligé jusqu'à nos temps le but essentiel de sa mission sur la terre, parce qu'il aimait à dire que le plus pressé était de procurer le bonheur du peuple avant de chercher à éclairer son intelligence et toucher son cœur. Donc on voit très bien que pour les américanistes, et ça c'est exactement l'esprit du catholique libéral, l'important c'est d'aider les gens à se sentir bien ici-bas sur la terre. Pour un catholique, au contraire, un vrai catholique, le plus important, c'est de préparer les gens à aller au ciel. Le bonheur ne consiste pas à vivre ici-bas, mais à vivre au ciel avec Dieu. Rappelez-vous, très sainte Vierge Marie disant à sainte Bernadette, après les apparitions de Lourdes, « Je ne peux vous promettre le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. » Donc, le grand danger du catholicisme libéral, c'est d'avoir fait croire aux catholiques libéraux qui suivaient cette tendance-là, qu'on pouvait avoir le bonheur ici-bas sur la terre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être ici-bas parfaitement heureux parce qu'il nous manque l'essentiel, il nous manque la possession de Dieu. Donc on peut, bien sûr, avoir un certain bonheur ici-bas, mais un bonheur incomplet, parce que justement, nous sommes des viateurs. Vous et moi, nous sommes des viateurs. Ça veut dire, que ça veut dire un viateur? Un viateur, c'est quelqu'un qui est en passage. Nous sommes des pèlerins ici-bas. Alors, on voit très bien que le catholicisme libéral va entraîner comme conséquence une tentation, à savoir l'union morale de toutes les religions. Donc, pour les américanistes, la grandeur et la noblesse humaine sera réalisée par la célèbre trilogie de liberté, d'égalité et de fraternité. Le sillon et les catholiques libéraux, parce que c'est la même doctrine, donc oppose doctrine à doctrine, bâtissant leur cité sur une théorie contraire à la vérité catholique, dit Saint Pie X, faussant les notions essentielles et fondamentales qui règlent les rapports sociaux dans toute société humaine. Pourquoi ? Parce que les catholiques libéraux vont placer primordialement l'autorité publique dans le peuple, de qui elle dérive ensuite au gouvernant, telle façon cependant qu'elle continue à résider dans le peuple. Alors qu'au contraire, il faut préciser, et ça c'est tout l'honneur de Léon XIII, il faut bien préciser qu'il importe, et il est important de le remarquer, dit Saint Léon XIII, que ceux qui président au gouvernement de la chose publique peuvent bien, en certains cas, être élus par la volonté et le jugement de la multitude, sans répugnance ni opposition avec les doctrines catholiques, mais si ce choix désigne le gouvernant, il ne lui confère pas l'autorité de gouverner. Il ne délègue pas le pouvoir, il désigne la personne qui en sera investie. Alors qu'au contraire, le catholicisme libéral réclame au nom de la dignité humaine une triple émancipation politique, économique et intellectuelle. Une cité future à laquelle il travaille, qui n'aura plus ni maître ni serviteur, les citoyens en seront tous libres, tous camarades, tous rois. Donc ces idées de catholicisme libéral, enseignant donc qui suivent des pareilles doctrines, les mettent en pratique dans la vie intérieure, sèment donc parmi la jeunesse catholique des notions erronées et funestes sur l'autorité, la liberté et l'obéissance. Et donc ainsi, pour ces catholiques libéraux, toute inégalité de conditions est une injustice ou une moindre justice. Et ça, on retrouve ces idées même chez les catholiques de tradition, mes chers frères. Attention, on a des catholiques de tradition qui vous disent que toute idée d'inégalité dans les gens est quelque chose d'injuste. L'inégalité est quelque chose d'injuste. Or, on voit très bien dans la création du bon Dieu que tout ce qu'a créé notre Seigneur Jésus-Christ est basé sur l'inégalité, parce qu'il n'y a pas deux âmes identiques. Le catholicisme libéral souhaite donc une union morale entre toutes les religions. Toutes les religions se valent parce que tout le monde peut se sauver, parce que tous les hommes de bonne volonté ont un baptême de désir. Donc, les américanistes et les catholiques libéraux vont jouer à partir de quelque chose qui est vrai, l'existence d'un baptême de désir, mais qui n'est quelque chose qui n'est que quelque chose d'exceptionnel, et vont généraliser cette pratique du baptême de désir pour dire que tous les hommes sont sauvés. C'est exactement ce qu'enseigne Bergoglio, qui parle maintenant tout le temps, en longueur de journée, de ce salut universel. Donc, les catholiques libéraux font donc un pacte de silence sur toutes les particularités dogmatiques qui divisent les esprits, et un pacte d'action commune par ce qui unit les cœurs, par la vertu moralisatrice et consonante qui en est toute loi, toutefois, qui est en toutefois. Ce serait l'abandon des vieux fanatismes selon eux. Donc en gros, le catholique libéral va être obligé d'en arriver à la doctrine suivante, toutes les religions se valent parce que toutes les religions viennent du même Dieu. Le catholicisme libéral va donc se nourrir de l'espoir qu'il serait possible d'amener sans difficulté les peuples, malgré leurs divergences religieuses, à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme un fondement commun de vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on va s'unir sur les choses importantes et laisser tomber toutes les choses secondaires. L'Église catholique a toujours condamné ce genre d'idées. De telles entreprises ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques. Ici, c'est le pape Pie XI qui parle. 1928, Mortalium Animos. Voilà ce que dit l'Église, voilà ce qu'enseigne le pape Pie XI. Ces entreprises des catholiques libéraux ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables. En ce sens que tout également, bien que de manière différente, manifeste et signifie le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. Se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Inutile de vous préciser que l'enseignement de Bergoglio dit exactement le contraire. Donc, tels sont, dit le pape Pie XI, parmi d'autres du même genre, les arguments que répandent et développent ceux qu'on appelle les panchrétiens, ou les catholiques libéraux, c'est la même chose. Et il s'en faut que ces catholiques libéraux soient peu nombreux et disséminés. Ils sont au contraire multipliés en organisations complètes et ils ont fondé des associations largement répandues que dirigent le plus souvent des non-catholiques, quelles que soient leurs divergences en matière de foi. Sous les séductions et le charme de ces discours, dit le pape Pie XI, se cache une erreur assurément fort grave qui disloque de fond en comble les fondements mêmes de la foi catholique. Il en résulte qu'il ne peut y avoir de vraie religion en dehors de celle qui s'appuie sur la parole de Dieu révélée. Le devoir de l'homme, c'est de croire sans réserve donc à Dieu qui parle et obéir totalement à Dieu qui commande. Donc, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Et c'est ça, c'est un dogme de foi qui est nié par tous les catholiques libéraux et bien sûr par les américanistes. Donc, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ a été établie en société parfaite, extérieure par nature et perceptible au sens, avec la mission de continuer dans l'avenir l'œuvre de salut du genre humain sous la conduite d'un seul chef. Il est donc impossible non seulement que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'aux temps apostoliques. À moins que nous ne voulions dire, à Dieu ne plaise, ou bien que le Christ notre Seigneur a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Vous voyez comme il est important d'avoir cette doctrine pérenne dans l'esprit pour juger, essayer de juger catholiquement de tous ces problèmes. Au contraire, les modernistes, les catholiques libéraux, veulent négliger et écarter les controverses, même les plus anciennes et les divergences de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui les non-chrétiens. Et au moyen des autres vérités doctrinales, ils veulent constituer et proposer une certaine règle de foi commune. Dans la profession de cette foi, tous sentiront qu'ils sont frères, plus qu'ils ne le seront, et une fois réunis en une confédération universelle, les multiples églises ou communautés pourront s'opposer avec force et succès au progrès de l'impiété. C'est leur opinion commune. Donc, ils affirment même, ces catholiques libéraux, qu'ils vont traiter volontiers avec l'Église romaine, mais à droit égaux, c'est-à-dire en égaux et en égal. Il va de soi, dit le pape Pie XI, que le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer à ces congrès de catholiques libéraux et que d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Pouvons-nous souffrir, ce serait le comble de l'iniquité, que soit mise en accommodement la vérité et la vérité divinement révélée. Vous voyez, on voit bien que ces catholiques libéraux veulent un pacte d'union entre tous les hommes pour arriver à ce rêve d'une religion mondiale, une religion universelle, basée évidemment sur un gouvernement universel, un gouvernement mondial. Je reprends le texte de Pie XI. Quand le Fils unique de Dieu a commandé à ses envoyés d'enseigner toutes les nations, il a en même temps imposé à tous les hommes le devoir d'ajouter foi à ce qui leur serait annoncé par les témoins préordonnés par Dieu. Il a sanctionné cet ordre par ces mots: « Celui qui croira sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Ces deux commandements ne peuvent même pas se comprendre si l'Église n'expose pas intégralement et visiblement la doctrine évangélique et si, dans cet exposé, elle est à l'abri de tout danger d'erreur. Voilà un texte ici très important du pape Pie XI qui touche exactement notre sujet. Ces catholiques libéraux qui cherchent à fédérer les églises, faire une église universelle, semble poursuivre le très noble dessein de promouvoir la charité entre tous les chrétiens. Mais comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi catholique? Saint Jean lui-même, l'apôtre de la charité, que l'on a vu dans son évangile dévoiler les secrets du cœur sacré de Jésus, qui ne cessait d'inculquer dans l'esprit de ses fidèles le précepte nouveau « Aimez-vous les uns les autres », interdisait de façon absolue tout rapport avec ceux qui ne professent pas la doctrine du Christ entière et pure. « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, disait Saint Jean, ne le recevez pas dans votre maison, ne le saluez même pas. » Puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. Donc sans cette unité de foi, sur la foi catholique unique, hors de laquelle il n'y a pas de salut, il ne peut pas y avoir d'union légitime. C'est impossible. Donc comment, dit le pape Pie XI, comment concevoir la légitimité d'une sorte de pacte chrétien dont les adhérents, même dans les questions de foi, garderaient chacun leur manière particulière de penser et de juger, alors même qu'elle serait en contradiction avec celle des autres? Et par quelle formule, nous le demandons, pourrait-il constituer une seule et même société de fidèles, des hommes qui divergent en opinions contradictoires? Donc toutes ces fausses idées vont aboutir à un indifférentisme. Rappelez-vous les condamnations de Grégoire XVI contre Lamennais en 1832. Cet indifférentisme, dont les malheureuses victimes soutiennent que la vérité des dogmes n'est pas absolue, mais relative. C'est-à-dire qu'elle s'adapte aux besoins changeants des époques et des lieux, et aux diverses tendances des esprits, puisqu'elle n'est pas contenue dans une révélation immuable, mais qu'elle est de nature à s'accommoder à la vie des hommes. Ça, c'est le modernisme pur et simple de Bergoglio. Il est absolument illicite, dit le pape Pie XI, d'user de la distinction qu'il plaît à ces catholiques libéraux d'introduire dans les dogmes de foi entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux, comme si les premiers devaient être reçus par tous, tandis que les seconds pourraient être laissés comme matière libre à l'assentiment des fidèles. La vertu surnaturelle de foi a en effet pour objet formel l'autorité de Dieu révélant, autorité qui ne souffre aucune distinction de ce genre. Donc, le magistère de l'Église, ça c'est une phrase capitale du pape Pie XI, le magistère de l'Église, tant ordinaire qu'extraordinaire, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Donc ce magistère de l'Église ne s'exerce pas simplement dans les déclarations solennelles extraordinaires, mais chaque jour, donc aussi dans le magistère ordinaire de l'Église. Cet usage du magistère, cet usage extraordinaire du magistère n'introduit aucune nouveauté à la somme des vérités qui sont contenues, au moins implicitement, dans le dépôt de la révélation confiée par Dieu à son Église. Mais ou bien il rend manifeste ce qui jusque-là pouvait être peut-être obscur, paraître obscur à plusieurs, ou bien il prescrit de regarder comme de foi ce que auparavant certains mettaient en discussion. Donc, conclusion du pape Pie XI, donc, qui s'applique exactement à notre sujet, le siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part donc ainsi à des congrès de non-catholiques. Il n'est pas permis en effet de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Car jamais au cours des siècles, l'épouse mystique du Christ, l'Église catholique, n'a été souillée, elle ne pourra jamais l'être au témoignage de Saint Cyprien qui dit, je cite, « L'épouse du Christ ne peut commettre un adultère, elle est intacte et pure. » Et donc, ce serait une erreur de penser qu'on puisse croire que cette unité provenant de la stabilité divine, consolidée par les sacrements célestes, pourrait être déchirée dans l'Église et brisée par le heurt des vérités discordantes. Certains catholiques libéraux, et même catholiques de tradition, pensent que l'Église a perdu son unité. Ce n'est pas possible, puisque l'Église est une sainte catholique et apostolique, et sera une sainte catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. Mais dans cette unique Église du Christ, le pape Pie XI précise, personne ne se trouve, personne ne demeure si par son obéissance il ne reconnaît et n'accepte l'autorité, le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Encore une fois, ce n'est pas parce que malheureusement nous sommes dans un état d'absence d'autorité légitime, nous sommes orphelins d'autorité depuis la mort du pape Pie XII, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Il faut continuer d'enseigner ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Pourquoi ? Parce que seule l'Église catholique est celle qui garde le vrai culte. Elle est la source de vérité, la demeure de la foi, le temple de Dieu, et qui n'y entre pas ou qui en sort se prive de tout espoir de vie et de salut. Que personne ne se flatte d'une lutte obstinée, car c'est une question de vie et de salut. Si on y veille avec précaution et diligence, c'est la perte et la mort. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais personne ne peut être sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité sans passer par l'unique moyen de salut qui est l'Église catholique. Voyez, mes bien chers frères, avec ces textes très forts du pape Pie XI qui continue l'enseignement doctrinal magistériel de l'Église, à quel point les idées du catholicisme libéral font pénétrer dans l'Église des idées délétères qui vont détruire de l'intérieur même la colonne vertébrale de l'Église. Le pape Saint Pie X disait que les artisans d'erreur, il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés de l'Église. Ils se cachent. Et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive, disait Saint Pie X, dans le sein même et au cœur même de l'Église. Ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Il s'agit, dit Saint Pie X, de prêtres qui, sous couleur d'amour et de l'Église, absolument court de philosophie et de théologie sérieuse, imprégné au contraire jusqu'au moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, se pose au mépris de toute modestie comme rénovateur de l'Église. En phalange serrée, donne audacieusement l'assaut à tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ, sans respecter sa propre personne, qu'ils abaissent par un témérité sacrilège qu'à la simple et pure humanité. Ce n'est pas du dehors en effet, c'est du dedans que ces gens trament la ruine de l'Église. Le danger est aujourd'hui presque aux entrailles même et aux veines de l'Église. Leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où frapper, où la frapper. Ajoutez que ce n'est point au rameau et au rejeton qu'ils ont mis la cognée, mais à la racine même, c'est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus profondes. Et note de Saint Pie X, cette racine d'immortelle vie une fois tranchée, il se donne la tâche de faire circuler le virus par tout l'arbre. Nul parti de la foi catholique qui reste à l'abri de leurs mains, nul qui ne fasse tout pour corrompre, et tandis qu'ils poursuivent par mille chemins leurs desseins néfastes, rien de si insidieux, de si perfide que leur tactique. Amalgamant en eux le rationaliste et le catholique, ils le font avec un tel raffinement d'habileté qu'ils abusent facilement les esprits mal avertis. Et voilà la conclusion de Saint-Pédis, ça c'est toujours, c'est dans l'encyclique Pachendi, je vous cite tout ça, hein, Pachendi 1907. Ceci paraît ôter tout espoir de remède. Leur doctrine, la doctrine de ces catholiques libéraux, donc c'est ça dont ils parlent, hein, des modernistes. Les doctrines de ces gens-là leur ont tellement perverti l'âme qu'ils en sont devenus contempteurs de toute autorité, impatients de tout frein. Prenant assiette sur une conscience faussée, ils font tout pour qu'on attribue au pur zèle de la vérité ce qui est œuvre uniquement d'opiniâtreté et d'orgueil. Comme, dit Saint-Pédis, une tactique des modernistes, une tactique fort insidieuse est de ne jamais exposer leurs doctrines méthodiquement et dans leur ensemble, mais de les fragmenter en quelque sorte et de les éparpiller ça et là, ce qui prête à les faire juger ondoyants et indécis, quand leurs idées au contraire sont parfaitement arrêtées et consistantes. Il importe ici et avant tout de présenter ces mêmes doctrines sous une seule vue et de montrer le lien logique qui les rattache entre elles. Vous voyez, on voit très bien à quel point il s'agit de garder la tête sur les épaules et le cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ et surtout l'intelligence avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce pacte d'union, si vous voulez, ce pacte d'union entre toutes les religions que veulent les catholiques libéraux va amener à la destruction de l'Église. Il suffit d'ouvrir les yeux, voilà ce qui s'est passé dans l'Église. Alors tant que l'Église s'opposait à ces fausses doctrines, le barrage était là pour protéger les catholiques, mais malheureusement, lorsque les vannes du barrage ont été ouvertes, c'était le cas avec l'arrivée de Jean XXIII en 1963, au moment de l'arrivée de Jean XXIII, même 62, eh bien, à la fin du Concile Vatican II, c'est plutôt ça, donc 65, excusez-moi, donc dès les années 63, 64, 65, eh bien, les vannes ont été ouvertes et ces idées ont envahi toute l'Église. Résultat des courses, eh bien, on arrive à la perte, destruction de la foi catholique elle-même partout dans le monde. C'est ce qu'on voit avec l'Église de Vatican II, l'Église de Bergoglio. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les catholiques libéraux voulaient participer au congrès des religions qui avait été organisé en 1900 à Paris. Donc, leur idée, c'était de réconcilier littéralement l'Église catholique avec le siècle nouveau. 1900, c'est le début du XXe siècle. Et l'Église catholique était donc supposée venir tenir boutique à la foire des religions. Donc c'est une espèce de religion de l'humanité greffée sur le catholicisme. Donc pour résumer avec l'abbé Barbier, il faut préciser que ce catholicisme libéral, cet américanisme, est une religion d'action sociale qui est en fait une religion d'indifférence dogmatique. Donc la conclusion, il l'a déjà donnée, une religion de l'humanité greffée sur le catholicisme. Donc, cette religion du catholicisme libéral, c'est vraiment une religion, a deux caractères qui la définissent, dit l'abbé Barbier. Elle est sociale, elle est positive. Sociale, c'est-à-dire plus soucieuse de la société que des individus. Et elle est positive, c'est-à-dire plus curieuse de ce qui est humain que ce qui est surnaturel. Un de ces caractères, dit l'abbé Barbier, entraîne l'autre. Plus l'homme a l'esprit social, plus il tend à avoir l'esprit positif, car plus il pense à l'intérêt commun qui le distrait du sien propre, plus il néglige dans la religion la partie dogmatique, qui le renseigne sur sa propre destinée après la mort pour s'attacher à la partie morale qui règle ses rapports avec les communautés. L'esprit social est le souci de l'humanité plutôt que de soi-même, l'esprit positif est le souci de l'humanité plutôt que de l'inconnaissable, l'un et l'autre peuvent se définir pardon, l'un et l'autre peuvent se définir le culte de l'humanité et la recherche du progrès humain. Ça, c'est exactement le catholicisme libéral. Culte de l'humanité.